Pero ahí viene él.
Voilà, je vous invite à méditer ce matin la longue parabole du semeur en Matthieu 13. Vous l'avez sur les feuilles, comme il y avait un peu de place et que je disais tout à l'heure que la maison ne recule devant aucun sacrifice. Nous avons même mis le texte biblique sur la feuille. Vous voyez un peu comme il est long, ça vous permettra comme ça de suivre peut-être plus facilement. Voilà. Donc Matthieu. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffées. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit, « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à cela, ce n'est pas donné. » Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit, « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir. Et je les aurai guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent, en vérité je vous le déclare. Beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine, il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Seigneur, ta parole est la vérité, viens la semer dans nos cœurs et nous consacrer par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter encore le Seigneur, à l'adorer avec le 463. Voilà, l'été, c'est vraiment la bonne saison pour réécouter ces paraboles de Jésus qui parlent de la vie dans les campagnes méditerranéennes à son époque. Hein, quand on écoute ces paraboles du Seigneur, on entend presque les cigales, on sent la lavande, on voit les oliviers, les cèdres, tout un paysage qui s'offre à nous avec ses moutons, avec le blé. Et malgré la distance chronologique, géographique et technologique, bien sûr, qui nous sépare des semailles palestiniennes, ces histoires de Jésus gardent leur saveur familière. Et après tout, dans nos champs, dans nos jardins, ou simplement dans la nature qui nous environne, ici, chez Karine et Alain, les semences, les mauvaises herbes, pas trop, chez vous, bien sûr, les cailloux, les oiseaux du ciel, la terre fertile, bien sûr, restent des réalités que nous connaissons bien et qui se rappellent à nous tous les étés. Les paraboles de Jésus n'en sont pas pour autant toujours faciles à comprendre. Et bien des aspects de cette parabole du semeur restent mystérieux pour nous. Le décor est tout simple, mais nous pressentons, et les gens qui écoutaient Jésus à l'époque le pressentaient aussi, nous pressentons que ce que le Seigneur exprime est très très important. Jésus sort de la maison, il s'assied au bord de la mer, les foules s'assemblent autour de lui, et afin d'être mieux entendu, on n'avait pas de beaux micros comme nous aujourd'hui à l'époque de Jésus, alors pour être mieux entendu, il monte dans une barque. Et à quelque distance du rivage, il se met à parler avec sa voix qui est portée par l'eau. Comme moi aujourd'hui, vous voyez, j'ai un magnifique rabat-voix qui permet d'être bien entendu par vous. Fabrication garantie Monachon. Alors, c'est très gentil d'avoir pensé à protéger ma tête du soleil aussi. Alors, avec ces foules, essayons de nous mettre à l'écoute du Seigneur. Rien touché, hein? Reprenons d'abord à notre compte la question des apôtres. C'est peut-être finalement ce qui nous pose le plus de problèmes dans cette parabole. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Dans notre époque, ça paraît curieux. On dirait parfois que Jésus fait tout pour ne pas être compris. Alors que nous cherchons tous les moyens possibles et imaginables pour être compris et pour faire passer le message à tous les publics, avec les moyens techniques, avec tout ce que nous pouvons. On cherche des petits trucs pendant les cultes aussi pour être bien compris. Non, Jésus parle en parabole. Alors pourquoi ce caractère mystérieux des paraboles, alors que Jésus pourrait tout aussi bien exprimer les choses clairement? Comme ça aurait été tellement plus simple. Les gens le comprendraient mieux. Il y aurait moins de discussions par la suite, parce qu'évidemment, chacun y va de son interprétation, et au cours de l'histoire de l'Église, on a pu les interpréter dans un sens ou dans l'autre. Et puis, ces paroles auraient peut-être eu une plus grande influence. Mais Jésus n'est pas de cet avis. L'important pour lui n'est pas que ces paroles aient une influence considérable. Peu lui importe la publicité ou la force des médias, mais ce qui lui importe à lui, c'est qu'elle soit bien comprise, qu'elle pénètre dans les cœurs, qu'elle soit écoutée avec le cœur. Il ne recherche pas Jésus des fans ou des supporters, mais il recherche des disciples et des témoins. C'est cela qui l'intéresse. La parole de Dieu n'est donc pas un spot publicitaire. Pour la comprendre, il faut une certaine préparation. Et c'est pourquoi Jésus peut dire: À celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance. Bon, jusque-là, ça va. La suite nous pose plus de difficultés. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Bien, tout simplement, je crois qu'on peut comprendre ces paroles de cette manière. Ce qui, par la foi, justement, par cette préparation de la prière et d'un cœur tourné vers le Seigneur, ont commencé à pénétrer dans les mystères du Seigneur, ceux-là seront comblés toujours davantage par sa parole. Hein, on dit bien que l'appétit vient en mangeant. ou que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On a des proverbes qui disent un peu ça pour dire qu'effectivement, plus on pénètre dans un mystère, plus on en goûte la saveur et plus on en reçoit. Nous expérimentons cela dans notre vie de foi, comme d'ailleurs dans nos relations humaines. Quand on trouve un véritable ami, on cherche à passer toujours plus de temps en sa présence, alors qu'avant de le connaître, on aurait très bien pu s'en passer totalement. Un temps, ce temps, on l'aurait considéré comme superflu avant la rencontre décisive. Alors la foi, c'est pareil. La foi naît, la foi grandit dans une relation avec le Seigneur. Et tant que l'on reste à l'extérieur de cette relation, on n'y comprend pas grand-chose et on risque de continuer à s'enfoncer dans l'aveuglement. Et c'est pourquoi Jésus dit « Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur. » Par exemple, pour ceux qui n'ont jamais prié, la prière ne représente rien. J'étais étonné hier en parlant avec une amie qui était venue manger chez nous. Bon, le sujet est venu sur la mort. Elle disait, dans notre famille, la mort, voilà, c'est une étape. On a vécu, on a passé de bons moments, on meurt et puis après c'est fini. On est athée, mes parents sont athées, mes grands-parents sont athées. J'essayais de lui faire comprendre que quand on a goûté à cette espérance, à cette joie d'appartenir au Seigneur, de se savoir aimer et de pouvoir être avec lui pour toujours, la mort prenait quand même une autre dimension. Ben non, elle n'arrivait pas à goûter cela. Ça ne signifiait rien. Jésus dit, à celui qui a, il sera donné et il sera dans la surabondance. Et nous sommes ce matin en train ensemble de goûter à cette surabondance de bien que le Seigneur nous donne par sa parole, par la louange, par la prière, par la communion fraternelle, par l'espérance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Et pourtant, à ce peuple que le prophète Ésaïe et Jésus, en le reprenant, appellent un peuple au cœur épaissi, pourtant même à eux, les paraboles permettent malgré tout de voir et d'apprendre quelque chose, même sans comprendre. Ils saisiront au moins l'existence d'une réalité qui les dépasse. Ils sentiront peut-être qu'il est possible d'aller au-delà de l'incrédulité, de ce qu'on ressent un peu au ras des pâquerettes, si je puis dire, et qu'il est possible de connaître les mystères du royaume des cieux. Il est possible d'entrer dans un mystère. La parabole devient alors une invitation permanente à entrer dans une démarche de foi, à ouvrir les yeux au-delà de ce que nous présente la simple réalité, c'est une invitation permanente à rencontrer Jésus. En ce qui nous concerne, si nous sommes entrés dans cette démarche, Jésus nous proclame heureux. Alors prenons cette parole pour nous. Mais vous, heureux vos yeux par ce qu'ils voient, heureuses vos oreilles par ce qu'elles entendent. Notre réponse à l'invitation du Seigneur est déterminante pour notre vie. Et Jésus ose même dire, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors heureux sommes-nous, frères et sœurs, parce que nous avons reçu la révélation de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus. Nous l'avons reçu et nous pouvons croire en ce semeur qui est sorti pour semer et nous pouvons entrer dans cette parabole pour écouter encore et toujours ce que Jésus a à nous dire. Alors la parabole du semeur nous montre des grains répandus à profusion. Le semeur a un geste large, je fasse attention, un geste large qui éparpille la semence autour de lui et naturellement, il en tombe un peu partout, au bord du chemin, sur les endroits pierreux, dans les épines et dans la bonne terre. Ce semeur, c'est Jésus qui parle à cette grande foule rassemblée autour de lui. Il jette sa parole avec abondance à tous ces gens qui se pressent sur le rivage. Et sa parole a des effets très divers sur son auditoire. Dans sa parabole, Jésus décrit ce qui se passe pendant qu'il parle. Les graines du semeur sont ses paroles. Matthieu précise que Jésus dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ces gens présents là au bord de la mer ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus témoins d'un moment absolument capital de l'histoire humaine. Ce moment où la parole se fait chair, où la parole de Dieu a pris visage humain. Et le Christ donne à une foule multiple l'unique parole de Dieu. Et cette parole, selon les auditeurs, est acceptée ou refusée, provoque l'indifférence ou la joie. Jésus laisse entendre qu'elle peut même susciter l'hostilité, que le malin est là, que le diable est son ennemi. Ce malin qui s'acharne contre l'éclosion du royaume de Dieu. Mais même si le malin essaye de reprendre cette parole, de l'enlever à ceux qui l'écoutent, ce royaume n'en demeure pas moins encore et toujours l'œuvre de Dieu. Malgré les oiseaux voraces, malgré les cailloux et les épines, la moisson dépassera toute espérance. Quoi qu'il arrive, la semence portera ses fruits. Le royaume de Dieu arrive avec la personne de Jésus. Cet événement est capital. Le semeur est là. Le semeur est sorti pour semer. C'est un événement absolument unique et c'est à celui-là que nous nous référons toujours. Alors désormais, parce que le semeur est sorti, l'homme nouveau peut commencer d'exister. Et cet homme nouveau sera façonné par cette parole, par la parole du Christ. Et il donnera à la parole sa fécondité dans la mesure où il saura l'accueillir convenablement, c'est-à-dire l'accueillir dans la foi et dans l'amour. Alors, confronté quand même à l'insistance de ses disciples qui sont un peu comme nous et qui réclament un message clair, Jésus se laisse fléchir et livre exceptionnellement, car il ne le fait pas pour toutes les paraboles, loin de là, il livre exceptionnellement ensuite une explication de sa parabole. Maintenant, il ne s'adresse plus à la foule. Il ne s'adresse plus qu'à ses apôtres. Et en fait, il prolonge la parabole en la reprenant point par point et en l'adaptant à chaque personne en particulier. Quand l'homme entend la parole du royaume, quand un homme ou une femme entend la parole du royaume, mais que se passe-t-il? Alors que dans le premier récit, Jésus parlait pour tous, maintenant son langage est au singulier, pour aider chacun, chacune à se situer par rapport à la semence de sa parole. Jésus ne parle plus seulement des différents endroits où tombe la graine, il parle maintenant de celui ou de celle qui a été ensemencée. Il s'agit maintenant d'une rencontre où la parole et la personne qui la reçoit sont interactifs. La parole du Christ est destinée à l'être humain, et elle ne peut prendre racine qu'en lui. L'homme est fait pour cette parole et ne peut fructifier que par elle. Alors Jésus reprend le défilé, pas du 14 juillet, hein, mais le défilé, l'aventure de cette semence. Celui qui a été ensemencé au bord du chemin, c'est l'homme qui ne comprend pas. La graine roule et elle est emportée par les oiseaux. Le diable la retire de notre cœur. Il nous arrive d'entendre plusieurs fois la même parole du Seigneur et elle ne nous dit rien. On a l'impression d'être complètement vide, stérile. Ou alors, nous ne lui laissons pas la possibilité de nous parler et de nous transformer. À d'autres moments, au contraire, nous l'entendons et nous l'accueillons avec joie. Nous sommes alors semblables aux endroits pierreux dont parle le Seigneur. Il nous semble, ce jour-là, ou à ce moment-là, avoir reçu une lumière de la part de Dieu. Et c'est sans doute vrai, c'est sans doute vrai. Et nous décidons alors de passer à l'action. Par exemple, lors d'une soirée d'évangélisation ou de prière, peut-être pendant un culte, ou au cours d'un entretien avec un ancien ou un pasteur, ou bien en méditant chez soi la Bible. À ces moments-là, vraiment, nous avons envie de donner notre vie au Seigneur. Mais rapidement, les obstacles s'amoncellent, parfois même de tout petits obstacles. Les moqueries d'un proche, la timidité, les soucis, les habitudes, que sais-je encore. Alors Jésus nous connaît bien. Il nous fait remarquer que nos bonnes résolutions finissent souvent par s'évanouir. Il nous arrive aussi d'entendre la parole de l'Évangile, d'apprécier sa beauté, sa vérité et sa profondeur, mais là on se dit « Oh non, 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 c'est pas possible. Non, là ça ne va plus. Ce n'est pas possible. Jésus, tu exagères. Comment vivre authentiquement? Comment je peux faire, moi, pour vivre authentiquement toutes ces exigences de pauvreté, d'amour des ennemis, de vérité, de justice, de pureté, d'abandon entre tes mains? Nous avons nos occupations, nous avons nos responsabilités, nous avons notre vie de famille, nos charges multiples, nous avons notre insertion dans la société, nous avons l'emprise du boulot, tout cela qui en rendent la fidélité irréalisable, en tout cas, du moins, de notre point de vue. Celui qui a été ensemencé dans les épines, dit Jésus, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Cette expérience aussi, nous la connaissons bien. L'auteur de l'épître de Jacques, au chapitre 1, donc c'est à la fin de la Bible, hein, écrit peut-être une clé pour nous aider à vivre de cette parole. Débarrassés de toute souillure et de tout débordement de méchanceté, accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie. Mais soyez les réalisateurs de la parole. Et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. Oui, la bonne terre existe. Elle existe, cette bonne terre qui porte du fruit et qui produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30, comme dit Jésus. Alors sommes-nous parfois cette bonne terre? Ben certainement, heureusement. Mais alors, il est même possible que nous n'en sachions rien. Parce que nous ne sommes pas encore au temps de la moisson. Les fruits de notre vie sont spirituels, mystérieux parfois. Nous ne savons pas bien ce que nous semons autour de nous, les fruits que nous portons. Ces fruits ne peuvent ni se compter, ni se mesurer. Pour nous aujourd'hui, l'important est en tout cas de vouloir devenir cette bonne terre. Et en nous, cette volonté, c'est déjà l'œuvre de l'Esprit de Jésus. Le semeur, Alain et Karine le savent bien, le semeur, c'est aussi celui qui travaille la terre pour la rendre fertile. Quiconque est né de Dieu, écrit Jean, sa semence demeure en lui. Alors nous sommes tous, si successivement ou simultanément, les trois premiers états du sol sur lequel tombe la semence. Et dans son amour, Christ nous offre la possibilité de devenir aussi une bonne terre. Cette bonne terre ne peut porter du fruit que parce que le semeur la travaille. Et il la travaille tous les jours. Et c'est lui qui y ensemence sa graine. Devenir la bonne terre qui produit 100, 60 et 30 pour 1, c'est accueillir en nous le travail de Jésus. Ce travail qui répond à l'attente la plus profonde de nos vies. C'est nous laisser façonner par le Seigneur. Je crois que l'évangile du semeur est aussi l'évangile de la grâce. Il n'appelle pas à mériter, mais à accueillir dans la foi. Jésus parle ailleurs du travail mystérieux de sa parole dans le monde. En Marc 4, 26 à 27, par exemple, Jésus dit « Il en est du royaume de Dieu » comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. La semence germe et grandit, il ne sait pas comment. Par son Saint-Esprit, croyons que l'amour de Jésus est à l'œuvre en ce monde. Et en lui ouvrant nos vies, nous devenons ses témoins. Et à sa suite, nous devenons aussi semeurs de semences. Alors la parabole du semeur est bien sûr une exhortation aux auditeurs que nous sommes à nous examiner sérieusement. Quelle est la qualité de notre terrain intérieur? Essayons de nous débarrasser de nos épines, de nos cailloux et d'enlever les méchants oiseaux. C'est rare que les oiseaux soient montrés négativement dans la Bible. Ils sont plutôt généralement montrés positivement. Mais enfin, voilà, là, ils sont parfois un peu voraces. Et puis, la parole, donc, est aussi un encouragement donné aux prédicateurs chrétiens, ouf, et aussi à tous les témoins de l'Évangile que nous sommes tous, pour qu'ils ne se découragent pas dans l'annonce de la parole du Christ. Vous savez, ça nous arrive de nous décourager. Eh bien, la parole du Seigneur nous invite, la parole du semeur du Seigneur nous invite à ne pas nous décourager. Nous sommes parfois hantés par l'idée de rendement. Nous sommes parfois inquiets, par exemple, de ne pas voir se remplir davantage les bancs de nos cultes. Il nous arrive d'être déçus parce que nous n'avons pas les résultats immédiats de nos semailles. Alain disait la semaine dernière, en nous montrant son jardin, que vouloir se nourrir du travail de la terre exige de la patience. Alors écoutons cette parabole étrangement, qui, avant de parler de rendement, parle de gaspillage. 3 fois sur 4, la graine est semée en pure perte. Quel gaspillage, quel temps perdu. Mais finalement, quand elle le peut, elle lève quand même. Et elle assure une moisson surabondante. Tout s'acharne dans cette parabole contre l'éclosion du royaume de Dieu. Mais en fin de compte, la moisson dépassera toute espérance. La joie de cette espérance fera de nous une bonne terre qui portera ses fruits, des fruits capables à leur tour d'ensemencer d'autres terrains. Amen. Viens Seigneur, toi qui es l'agriculteur de nos vies, le cultivateur de notre vie, et viens travailler notre terrain intérieur, Seigneur. Enlève les épines, enlève les cailloux, écarte tout ce qui peut enlever la semence de ta parole de notre existence et viens, Seigneur, faire de notre cœur une terre capable de t'accueillir et de te porter au monde, Seigneur. Et garde-nous dans cette foi joyeuse, dans cette confiance, dans cette espérance de savoir qu'au-delà de tout ce que nous faisons, ta parole fait son chemin dans le monde, ta parole fait son chemin dans nos vies. Ta parole fait son chemin dans notre Église, Seigneur. Ton esprit travaille, Seigneur, au-delà de nos mérites, au-delà de nos œuvres. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens, Seigneur, garde-nous dans la confiance, mais aussi dans l'ardeur à travailler pour ton royaume. Amen.